moi aussi, dit l'apôtre Paul. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'ici je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. L'épître tire son nom bien sûr de la ville de Philippe. La ville de Philippe fut la première ville de Macédoine dans laquelle l'apôtre Paul fonda son église. Donc d'après le témoignage unanime de l'église ancienne, c'est bien l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Philippiens. Plusieurs historiens pensent que c'est bien à Rome que plusieurs épîtres, dites épîtres de la captivité, ont été écrites, dont la lettre aux Philippiens a dû être écrite vers la fin de sa deuxième année d'emprisonnement à Rome. On pense vers 61 après Jésus-Christ, bien entendu. Donc, elle fut la première église implantée en Europe. En arrivant à Philippe, comme d'habitude, l'apôtre se rendit dans un lieu de prière, et comme dans cette ville à Philippe, il n'y avait pas de synagogue, il se rendit le long de la rivière où il trouvait plusieurs femmes pieuses. Paul leur prêcha l'évangile et Lydie, une riche commerçante de pourpre, devint croyante et invita l'apôtre à venir dans sa maison prêcher l'évangile. Malheureusement, l'Église grandissant à cause des attaques de l'ennemi, Paul partit de Philippe en laissant une Église prospère, puisque nous voyons que l'Église de Philippe a soutenu l'apôtre Paul dans sa prison à Rome, que ce soit en prison à Rome. L'Église de Philippe aussi soutenu les pauvres de Jérusalem. Donc l'apôtre, en écrivant aux chrétiens de Philippe, il avait plusieurs objectifs. J'ai résumé quelques-unes, mais vous pouvez lire l'épître, vous verrez vous-même. Mais il voulait exprimer par écrit sa reconnaissance pour le don des Philippiens. Au chapitre 4, nous pouvons voir que chapitre 4, verset 8. Il les exhorta à l'unité chrétienne, même si l'Église avait l'apparence d'aller bien, d'aller mieux, mais il les exhorta quand même à l'unité chrétienne. Et aussi pour les mettre en garde contre les faux docteurs. Donc, c'est une épître essentiellement pratique, peu d'instructions théologiques directes. En tout cas, les thèmes majeurs que nous pouvons trouver, c'est l'exaltation de Jésus-Christ, la poursuite de la ressemblance à Jésus-Christ, qui est le facteur même de la maturité chrétienne. Et nous verrons que malgré le contexte de la détention de l'apôtre Paul, la lettre est composée de plusieurs parties qui appellent à la joie. Pour l'apôtre, malgré les épreuves, malgré certaines difficultés de la vie, et plus particulièrement chez les chrétiens, nous pouvons garder la joie. Marcher en gardant la paix intérieure est un signe de maturité. La joie, rien ne peut, ne doit nous enlever la joie de Jésus-Christ. Il nous dit au verset 16, qui a été ma proposition, c'est marcher ensemble dans la même direction. Avant d'aborder le thème principal de cette partie de la lettre, l'apôtre commence par une exhortation à se réjouir dans le Seigneur. La joie dans le Seigneur est sans rapport, je dis bien, avec les circonstances favorables ou défavorables. Le dit ici au verset 1er, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Marcher ensemble dans la même direction, c'est d'accepter, oui, les mises en garde bibliques, que nous voyons ici au verset 2 au verset 4. Une mise en garde très solennelle dans la joie, être dans la joie et se tenir, mais être dans la joie et se tenir sur ses gardes. Les gardes ici vont utiliser des mots peut-être qui peuvent nous choquer aujourd'hui. Il dit ici, faites attention aux chiens. Il parle ici des judaïsants. Bien sûr, au premier siècle, les chiens étaient des chiens sauvages qui erraient dans les rues, comme on peut encore trouver aujourd'hui dans certains pays du monde. C'était des chiens carnivores. Les chiens sont toujours carnivores. Qui mangeaient tout ce qui traînait. Donc c'était vraiment des animaux répugnants. Et les juifs orthodoxes se plaisaient à appeler les païens chiens. Donc l'apôtre va leur envoyer cette image pour leur dire que lui, c'est eux des chiens. C'est eux qui suivent les chrétiens. C'est eux qui suivaient l'apôtre Paul en aboyant derrière l'apôtre. Donc il leur dit ici, faites attention aux chiens. Paul les traite de même de faux circoncis, car ils enseignaient que la circoncision de chair était indispensable au salut. Donc ces judaïsants n'étaient pas simplement des faux circoncis, mais ils étaient aussi des mauvais ouvriers. Parce que c'était des ouvriers de justice, non, on se disait des ouvriers de justice. Paul ici taxe leurs œuvres de mauvaises, car toute tentative de plaire à Dieu par nos propres forces sont des œuvres mauvaises. Plaire à Dieu par nos propres forces nous éloigne de l'œuvre rédemptrice de Christ. De soi-disant bonnes œuvres accomplies par la chair étaient et sont toujours mauvaises. La Bible nous rappelle que c'est par la foi, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ que nous sommes sauvés et non par les œuvres de la chair. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. C'est toujours tentant, même de nos jours, de vouloir gagner son salut par ses propres œuvres. Oui, dans notre société aujourd'hui, on aime dire je ne dois rien à personne. Donc c'est une mise en garde, je pense que pour nous tous, d'actualité toujours. Mais il dira aussi aux Philippiens, ne vous laissez pas intimider, parce que les vrais circoncis, ici au verset 3, il dit bien, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Les vrais circoncis, ce sont ceux qui rendent un culte à Dieu, qui ne s'appuient pas sur leurs propres efforts, non. Même l'apôtre Jean le dira, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il dit, les vrais circoncis, c'est ceux qui glorifient Jésus-Christ. Nous n'avons rien en nous pour nous glorifier. Même nos pratiques religieuses ne peuvent rien accomplir pour notre salut. Celui qui se glorifie, dans le Seigneur, dira l'apôtre. Les vrais circoncis, ce sont ceux qui ne mettent pas leur confiance en la chair, mais c'est ce qui est glorifié dans le Seigneur. Et bien, par rapport aux Juifs, on peut trouver les propos de l'apôtre Paul agressifs. Mais la circoncision de cœur dont il s'agit ici, ce n'était pas une invention du Nouveau Testament. Même l'Ancien Testament, le livre de la loi, parle de la circoncision de cœur. Pour plaire à Dieu, pour être en communion avec Dieu, il fallait la circoncision de cœur. Vous pouvez voir dans Deutéronome chapitre 10, dans Jérémie au chapitre 4, dans l'apôtre Paul n'invente rien ici. La circoncision, c'est toujours la circoncision de cœur. Mise en garde, toujours, je pense que qui nous concerne, peut nous arriver avec le temps de nous glorifier de ce que nous faisons pour le Seigneur, non de ce que le Seigneur fait en nous. Un appel à chacun d'entre nous, de qui ou de quoi nous nous glorifions. Est-ce que je me glorifie de mes œuvres ou je me glorifie du Seigneur? L'apôtre Paul va même parler de son expérience. Il est dit, s'il y a quelqu'un qui pouvait se glorifier, il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Si concile le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, il avait toutes les qualités pour mettre sa confiance en la chair. Il va parler ici de ce titre qui dépassait largement celle de ses adversaires. Il montre par là que ses avantages ne pouvaient pas contribuer à son salut, ni même à son épanouissement. Circoncis le huitième jour, donc il avait eu la circoncision au lieu, le jour prescrit par la loi. Huitième jour. Il était de la race d'Israël, dont juif authentique, de la descendance directe d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de la tribu de Benjamin. Vous savez, Benjamin était le deuxième fils de Rachel, et l'une des tribus importantes d'Israël, la même que celle de Juda. Ces deux tribus restaient fidèles à la dynastie de David. Hébreu, né d'Hébreu, issu des parents juifs qui avaient gardé la tradition et même la langue hébraïque loin d'Israël. Donc l'apôtre Paul montre ici ses qualités. Quant à la loi pharisienne, les fondamentalistes légalistes, il fallait appliquer la loi à tous les gestes de la vie quotidienne. Le pharisien, c'est celui qui se croyait atteindre le sommet même de l'expérience religieuse. Si quelqu'un était sûr d'aller au ciel, c'était bien les pharisiens. Et l'apôtre Paul dit, oui, j'étais pharisien. Quant au zèle persécuteur de l'évangile, le zèle pour le juif était la forme la plus élevée de la vertu religieuse. Il menait une vie juste comme le préconisait la loi. Mais il leur dira ici au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ces choses qui avaient de l'importance aux yeux des autres, c'était, je les regarde. Si, il utilise un peu les termes comptables ici. Je mets de côté ce que j'étais avant et ce qui est devenu Christ. Mon bilan, je vois que ce que j'avais avant ne sert à rien. Il les voit maintenant comme une perte. Ses qualités, son zèle, sa justice à l'égard de la loi, de l'autre côté de la balance, l'œuvre de Jésus-Christ, et tout cela sans poids. Mais ce qui est aussi, je trouve ici intéressant, le Seigneur ne condamne pas le zèle pour l'évangile. Le Seigneur condamne le zèle amer, qui amène à utiliser la violence, qui amène à utiliser les méthodes humaines pour amener à la conversion. Mais il nous appelle aussi, ce qui nous manque souvent aussi, c'est le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à annoncer. Dans cette marche chrétienne, nous sommes appelés à annoncer l'évangile de paix pour que plusieurs viennent à Jésus-Christ. Marcher ensemble dans la même direction, c'est ce qu'il veut ici, entrer en communion avec Jésus-Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Entrer en communion avec Jésus-Christ, avec Christ. Il dit, à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, à cause de la prééminence de Jésus-Christ, pour Paul, le bien suprême, c'était la connaissance de Christ. Mais comprenons bien que cela va au-delà de la connaissance intellectuelle ici. Il parle ici d'une connaissance personnelle, une vie partagée avec Christ. Il dira même aux Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis au Fils de Dieu, par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il voulait expérimenter cela. Il voulait vivre pleinement avec Christ. Je pense que c'est cet appel qu'il nous adresse ce matin. Cette intimité avec Christ. Une église qui marche dans la même direction, c'est une église où les membres cherchent cette communion constante avec Christ. Connaître Christ, d'ici, c'est chercher aussi la justice de Dieu. Pas avec ma justice, celle qui vient des œuvres de la loi, mais celle qui est basée sur nos efforts, l'orgueil, la moralité apparente, non. Mais la justice qui vient par la foi en Christ, cette justice que Dieu impute, met sur notre compte à tous les pour vivre pour lui. On appelle ça une imputation. La justice de Christ est mise sur notre compte pour que nous puissions avancer. Il vit ici une expérience extraordinaire de la grâce de Dieu. Vivre chaque jour sachant que Dieu ne tient plus compte de mes péchés. C'est ça qui est merveilleux. Vivre chaque jour, sachant que je ne passerai plus devant le jugement de Dieu. Parce que celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous-mêmes, nous devenions justice de Dieu. Nos péchés ont été mis sur le compte de Jésus-Christ. Et la justice de Jésus-Christ a été mise maintenant sur notre compte. Marcher ensemble en ayant cette même pensée. Que nous ne passerons plus devant le jugement de Dieu. Il vivait dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Mais pour lui, ce n'était pas une attente passive. Non, vivre dans l'attente, c'était vivre de l'amour de Dieu. Vivre dans l'attente, c'était vivre de l'amour entre frères et sœurs. Savoir s'encourager, l'esprit de solidarité entre frères et sœurs. Et aussi avec les gens du monde. Vivre dans l'attente, c'était aussi avoir l'esprit de pardon. On ne peut pas marcher dans la justice de Dieu. On ne peut pas vivre dans l'intimité avec Dieu et vivre sans pardon. Vivre toujours avec la rancœur d'un frère et sœur. Vivre une sorte d'hypocrisie. Dans cette recherche d'intimité avec le Seigneur, l'apôtre ici va très loin. Il veut approfondir sa communion et l'intimité avec Christ. Il ne cherche pas plus à faire une expérience statique comme peut-être feraient des drogués ou des religions à mystère. Non. Il le dit au verset 10. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Il était déjà sauvé. Il connaissait déjà Christ. Mais il voulait toujours aller de l'avant. Il voulait toujours connaître cette intimité. Il veut connaître la puissance de sa résurrection. C'est parce que nous prions souvent de cette façon. Connaître la puissance de la résurrection. Face à l'ennemi, face aux attaques du monde, dit que je marche dans l'assurance de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu, en ressuscitant Christ de la mort, a montré que la plus évidente chose, la façon la plus évidente, l'étendue de sa puissance. Il a prouvé sa domination sur le monde physique et spirituel. Il fallait que Paul laisse au pouvoir de la résurrection agir en lui. Cette puissance du Christ ressuscité nous rend capables de lutter contre la séduction du péché, nous rend capables d'avancer sereinement dans la vie chrétienne. Cette puissance nous aide à grandir spirituellement. Combien de gens aujourd'hui souffrent de ces maladies psychosomatiques? Mais vivre, connaître la puissance de la résurrection, c'est de marcher dans une vie de sainteté, une vie agréable à Dieu. Il veut connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, mais il veut aussi la communion des souffrances de Christ. C'est une prière que j'ai souvent du mal à faire. La puissance, même la communion des souffrances de Christ. Oui, une expérience douloureuse. La souffrance déjà faisait partie de lui dès son début de ministère. Nous pouvons lire ça dans la vie de... Vous lisez les Actes, vous verrez que c'était déjà quelqu'un qui connaissait des problèmes, qui était rejeté, combien de fois il a été battu. Mais ici, il veut encore connaître la souffrance, la communion, être en commun des communions des souffrances de Jésus-Christ. Parce que pour l'apôtre, souffrir pour Christ, pour lui, c'était devenu un privilège. Souffrir pour Christ. Accepter de souffrir pour Christ, cela nous empêchera de faire des compromis, ce qui nous arrive plus souvent. À faire des compromis, que ce soit au niveau doctrinal ou au niveau de la vie pratique, si nous sommes prêts à souffrir pour Christ, cela nous empêchera de faire des compromis dans cette vie. Souffrir pour la cause de Christ est quelque chose de normal. Ce qu'il dira aux chrétiens. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés aussi avec lui. Il dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains chapitre 8. Et cela nous amènera dans sa souffrance, en cherchant à être en communion des souffrances de Christ, il devient conforme à Christ dans sa mort. Ce désir qu'avait l'apôtre Paul de ressembler à Christ le poussait à prêcher l'évangile aux païens, d'être engagé pleinement dans l'enseignement de l'évangile, afin que plusieurs personnes aussi soient sauvées. Il avait été sauvé. Et il voulait que plusieurs viennent à Jésus-Christ. Et pour cela, il fallait passer par là. Cet appel, cette recherche à imiter Christ était plus qu'un désir. C'était juste une reconnaissance de l'amour de Dieu manifesté en sa faveur. Si Christ a donné sa vie pour lui, il était prêt à donner sa vie pour les autres. Pour l'apôtre, sa vie et sa mort, bien qu'impuissante à racheter qui que ce soit, servait le même but que son Seigneur. Marcher ensemble dans la même direction, mais c'est aussi d'accepter les exigences de la maturité spirituelle. Il Il dit au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, ou bien ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Comme le pasteur l'a souligné dans sa première partie, ici l'apôtre Paul ici utilise l'image d'un coureur qui, pour décrire la croissance spirituelle du chrétien, le croyant n'a pas atteint son objectif de conformité à l'image de Christ, mais il va continuer à courir jusqu'au. Il dit « Je cours pour tâcher de le saisir ». Le verbe ici « saisir », c'est vraiment « je cours pour prendre possession de Christ ». Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. J'ai été saisi par Christ et je cherche aussi à prendre possession. Il y a un jeu ici, c'est-à-dire « c'est Christ qui m'a mis dans la course ». C'est le Seigneur qui me met dans la course. Le but de l'apôtre est de rester dans la course avec la grâce de Dieu, et ce que les théologiens appellent souvent le déjà et le pas encore. Comme l'écrit Calvin dans un de ses commentaires, dès que nous sommes entrés par la foi au corps de Christ, nous sommes déjà entrés dans le royaume de Dieu. Et comme il est dit à Éphésiens, nous sommes déjà assis par espérance dans les lieux célestes. Il continue, « Je réponds que notre salut gît dans l'espérance, de telle sorte cependant qu'il est bien vrai que l'héritage ne nous peut manquer. Toutefois, nous ne le possédons pas encore. » Nous avons l'espérance, nous ne vivons que maintenant par espérance, mais nous ne possédons pas encore ce salut. La maturité spirituelle, chers frères et sœurs, c'est d'être conscient que nous sommes toujours dans la course. De rester dans la course. Paul est conscient de n'avoir pas encore atteint la perfection. Mais il est appelé ici à aller de progrès en progrès. Parce qu'il savait que la récompense sera la fin de la course. Comme ces coureurs, les pauvres romaines, qui allaient, sachant que l'empereur avait une couronne qui allait leur donner, donc il fallait courir. L'apôtre Paul nous dit, mais je cours, mais je sais que c'est Christ qui m'a saisi. C'est Christ qui m'a pris là où je suis. C'est Christ qui m'a mis dans la course. Il ne s'appuie pas sur son passé. Il le dira bien, je relis le verset 13. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière. Le croyant ne peut pas se reposer sur des œuvres passées ou ses succès passés. Combien de personnes, même croyants, sont handicapées par leur passé? Un soir, en rentrant du travail, ma fille m'a raconté ce qui était arrivé à la concierge de notre immeuble. En entrant dans l'immeuble, ma fille dit, elle a entendu quelqu'un crier. Et c'était notre concierge. Elle criait parce qu'un de nos voisins avait eu une crise cardiaque. Mais elle criait, le voisin était tombé. La concierge criait partout. Dit, ma fille et un autre passant sont venus commencer les massages, ont appelé le SAMU. Ils ont continué à faire les massages à notre voisin. Heureusement, les pompiers sont arrivés. On continue le massage, on transféré le voisin à l'hôpital. Pourquoi la concierge avait été paralysée jusqu'à ne rien faire, jusqu'à ne même pas arriver à téléphoner? En 5 ans, cette pauvre femme, qui avait une 50aine d'années, avait vu son compagnon mourir devant ses yeux. Elle avait vu le fils d'un voisin mourir après ces épreuves douloureuses. Mais sa vie a continué à son cours, comme tout le monde, jusqu'à ce qu'il y ait ce troisième accident. Jusqu'à ce qu'elle avait connu avant, dans cette douleur, Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas encore vraiment oublié. Et ça la paralysait. La Bible ici nous montre, ici nous sommes appelés à remettre notre passé, à remettre nos frustrations passées à Dieu, nos humiliations à Dieu. Combien de couples aujourd'hui peuvent se déchirer, des tensions même dans les églises, pourquoi? Et on le dit souvent intérieurement, je ne me laisserai plus faire. Je ne veux plus connaître les humiliations que j'ai connues dans mon enfance. J'ai mes opinions et mes arguments et tout le monde doit les suivre. Les recherches dans les sciences humaines montrent aujourd'hui que les blessures du passé, enfouies en nous, sont enveloppées d'une colère explosive qui éclatera à l'occasion d'une provocation ou d'une frustration. Mais un sage humain a dit, courage, fuyons devant une épreuve, mais peut-on fuir quand le combat est en nous? Nous devons constamment remettre nos fardeaux passés, nos frustrations à Dieu, jour après jour. Il est évident que le passé peut nous aider à ne plus commettre des mêmes péchés. Le passé peut nous aider à ne plus commettre les mêmes fautes. Nous pouvons nous appuyer sur un certain passé que le Seigneur nous a aidé pour aller de l'avant dans notre quête spirituelle. L'apôtre dit ici, ce qui est en arrière représente la partie de la course déjà accomplie. Nous sommes appelés à avoir les yeux sur la ligne d'arrivée, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes dans la course, pas je suis dans la course, nous sommes dans la course pour aller de l'avant. Le prix, il le dira, le prix réservé à tous ceux qui auront aimé achever la course. Non seulement à moi, dira l'apôtre, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous. Je continue la course avec les autres qui sont autour de moi, pas pour me comparer à eux, mais pour avancer ensemble, pour avancer ensemble, cherchant à maintenir ces exigences spirituelles. Je termine ici avec le verset 15 et 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Dis-nous tous donc qui sommes des hommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Dieu nous éclairera aussi. Cherchez. Est-ce que Paul se contredit ici? Il dit ici, je n'ai pas encore atteint la perfection, parce que nous n'atteindrons pas la perfection ici-bas. Mais il écrit ici aux chrétiens de Philippe. Il dit, vous qui êtes des hommes faits, des hommes parfaits. Mais ici, c'est contredit, non? Nous sommes des hommes et des femmes faits. L'homme et la femme ici parfaits sont ceux et celles qui tendent vers la perfection, qui courent, qui sont conscients qu'ils courent. Les personnes parfaites, ce sont celles qui ne se laissent plus alourdir par leur passé. Ce sont des personnes qui s'appuient constamment maintenant sur la grâce de Dieu pour avancer. Les personnes parfaites, ceux qui reconnaissent que nous pouvons avoir des avis différents sur plusieurs sujets, mais d'accepter l'avis des autres quand même on pense avoir raison. Il dit, si nous sommes d'un autre avis, Dieu vous éclairera. La maturité spirituelle, chers frères, c'est de faire confiance à Dieu qui nous éclaire sur tous les points. Il nous éclairera par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Mais le plus difficile souvent, je me rappelle en écoutant cette semaine, je n'étais pas là dimanche dernier, j'étais à Aix-en-Provence, j'ai écouté le message d'une autre sœur, Hélène. Tu as un point chez nous, la patience. C'est un problème. Il faut que ça soit résolu tout de suite. Tout de suite. Dieu nous demande. Les hommes faits ici, c'est des gens qui sont patients, mais qui sont patients dans la prière. Ils sont conscients que Dieu nous éclairera, mais il faut du temps. Être conscient. Marcher ensemble, oui, chers frères, il y aura des avis différents. Mais nous devons dépendre totalement de la parole de Dieu. chercher à développer la communion avec Christ. Il dit ici, je t'ai aimé, il dit marcher ensemble. Marcher ici ensemble, marcher en fil, dans la même ligne spirituelle. Il ne s'agit pas d'une réalisation individuelle, mais d'un but à atteindre vers lequel la communauté tout entière doit se mettre en marche. Toute la communauté entière. Notre sanctification personnelle dépend aussi de la sanctification collective. J'aime bien cette partie de l'apôtre Paul. Ça, c'est vraiment une de mes prières. Philippiens chapitre 1er. Verset 6, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Que nous puissions dire, est-ce que nous pouvons dire ça à un frère, à une sœur autour de nous, chaque matin, ou quand nous nous retrouvons le dimanche? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça, c'était un homme parfait, un homme qui tend à la perfection. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, pour qui vous participez à la même grâce que moi. C'est ma prière. Marcher ensemble dans la même direction, c'est une preuve de maturité. Nous devons être conscients qu'il nous arrivera souvent d'avoir des avis différents dans plusieurs sujets. Cette début de semaine, en écoutant la radio le matin, j'ai été frappé par le journaliste qui parlait des idées du philosophe Alain, du 19e, 20e siècle, qui disait quand un groupe qui est ensemble, qui a toujours les mêmes avis, c'est un groupe qui ne réfléchit plus. Ça m'a interpellé, mais je n'ai pas pu analyser. Mais un groupe qui est ensemble, qui ont toujours les mêmes avis sur tout, c'est un groupe qui ne réfléchit plus. Mais nous, le Seigneur nous dit encore, si nous avons ces avis différents, demandons au Seigneur, ayons cette certitude que le Seigneur nous éclairera. L'apôtre dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Notre Seigneur, malgré les trahisons de ses amis et frères même, malgré les insultes des païens, il a prié au Père Céleste pour nous, il a prié au Père pour ses bourreaux. Il disait, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Oui, frères et sœurs, marchons ensemble dans la même direction avec Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Prions le Seigneur. C'est notre Dieu, nous voulons simplement te dire merci. Merci de nous avoir saisis. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci d'avoir pris possession de nous, Seigneur, nous qui étions loin de toi, égarés de toi dans nos péchés. Et tu nous as, Seigneur, sauvés. Et tu nous as mis ensemble. Ensemble, Seigneur, pour avancer avec toi. Nous voulons encore te dire vraiment merci pour ton Esprit Saint qui est en nous, qui continue à agir en nous, Seigneur, afin que nous soyons un jour à ton image. Béni sois-tu, que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ. Amen.